Et puis, on va donc évidemment continuer dans Ésaïe. On arrive au chapitre 60. Alors, c'est facile pour Ésaïe, parce que pour Ésaïe, c'est exactement la même chose que pour la Bible. Il y a 66 livres dans la Bible, il y en a 66 dans Ésaïe. C'est aussi assez facile parce qu'il y a deux parties dans Ésaïe, 39 chapitres comme l'Ancien Testament, et puis le reste comme pour le Nouveau Testament. 19, ça fait un. Donc, c'est facile à retenir, hein. Soit vous retenez Ésaïe et vous savez combien il y a de livres dans la Bible, soit l'inverse. Alors, dans Ésaïe, hop là, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, j'avais une petite question un peu préparatoire pour vous en commençant Ésaïe. Ah, tu projettes le zoom. Okay. Jésus revient bientôt, ça c'est une certitude. La question c'est qu'est-ce que ça change concrètement pour nous? Qu'est-ce que ça change pour vous que Jésus revient bientôt? C'est pas une question assez centrale, hein, finalement. J'avais trois petits rappels encore à faire avec vous avant de vraiment commencer d'entrer dans l'étude du livre d'Ésaïe. Un deuxième rappel, alors pour ceux qui étaient à l'étude biblique qu'on avait fait juste avant Pâques autour des alliances, vous avez déjà vu ça. Pour les autres, ça me semblait important de le rappeler parce que c'est important pour comprendre le texte d'aujourd'hui. Dieu a fait une grande promesse à partir d'Adam et ensuite pour toute l'histoire de l'humanité. Alors bien sûr, dans la Bible, c'est précisé un peu, c'est un peu ajouté en cours de route. Dieu a précisé un peu les promesses qu'il a faites. La grande promesse, c'est qu'il veut faire de nous un peuple saint, un peuple de prêtres, un peuple qui appartient à Dieu. Ouais, merci. Et puis, il promet à ce peuple qu'il sera leur Dieu et qu'il habitera avec eux. Dieu va ajouter deux promesses. Une promesse surtout pour Abraham et puis surtout pour les Hébreux qui sortent d'Égypte, c'est ce qu'on a fêté à Pâques. Il leur promet de leur donner un pays, de leur donner un lieu pour habiter. Et puis au retour d'exil, il donne plutôt une autre promesse, la promesse du pardon de nos péchés. C'est bien que vous verrez comment Ésaïe va annoncer que cette promesse s'accomplit. Un autre rappel, ça c'est un rappel par rapport à ma dernière prédication sur Ésaïe 59, je pense qu'Étienne a redit une partie de ces choses-là. Face à la difficulté, nous avons plusieurs tentations. La première tentation, c'est de se mettre à douter que les promesses de Dieu sont encore vraies. On peut aussi commencer à avoir des attentes mal placées. Au lieu d'attendre de la part de Dieu, on attend de quelqu'un d'autre. Ou alors on attend de Dieu des choses qu'il n'a jamais promises. Une autre tentation lorsqu'on est dans la difficulté, c'est de négliger la prière. Dans Ésaïe 59, il y a ce verset un peu étrange. Dieu a vu l'injustice et la suite, c'est il s'étonne parce que personne prie. Et puis, dans le chapitre d'aujourd'hui, il me semble qu'on voit un quatrième élément. Lorsqu'on est dans la difficulté, on risque de commencer de ne plus assez espérer. Le thème d'aujourd'hui, c'est quelque part espérer dans les promesses de Dieu parce que les promesses de Dieu s'accomplissent. Et les promesses de Dieu sont toujours bien plus grandes que nos rêves. Des fois, on se contente de nos rêves, de nos envies, hein. Les promesses de Dieu, elles valent beaucoup plus la peine. Un autre rappel, vous verrez que c'est important encore pour le texte d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissiez la superficie de la ville de Chartres. Vous avez ici la superficie de la ville de Chartres, 16 000 km², celle de Paris, 105, et puis la France métropolitaine, évidemment c'est beaucoup plus grand, 544 000 km². On y reviendra tout à l'heure parce que c'est important. Je ne vous demande pas d'apprendre ces chiffres par cœur, mais c'est quand même important d'avoir une idée en tête. Ensuite, je vous invite à lire. Alors, On ne va pas lire l'entier de ces deux chapitres, qui sont deux chapitres qui se répondent dans la Bible. On va lire quatre parties, deux parties dans Ésaïe et puis deux parties dans Apocalypse. Alors, j'ai d'abord demandé à Sylvie, ce qu'il veut bien me dire au micro. Tu peux lui ouvrir le micro devant? Oh, voilà, pour lire, alors ce sera la plus longue partie, le début d'Ésaïe 60. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe 60, les 12 premiers versets.
Sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et les filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians et d'épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kébar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Démajot seront à ton service. Et ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers les colombiers? Car les îles espèrent en moi, et les nations et les navires de Tarsis sont en tête pour amener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. À cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et les rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées.
Je vais continuer toujours dans Ésaïe 60 à partir du verset 18. L'on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de dévastation et de destruction dans tes frontières. Tu appelleras tes murailles salut et tes portes louanges. Ce ne sera plus le soleil qui désormais te donnera la lumière du jour. La clarté de la lune ne luira plus sur toi la nuit, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Oui, ton Dieu sera ta splendeur. Désormais, ton soleil ne se couchera plus et jamais plus ta lune ne se retirera, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil auront pris fin pour toi. Ton peuple sera tout entier composé d'hommes justes et ils posséderont le pays pour toujours. Ils sont les rejetons que j'ai plantés moi-même, l'ouvrage de mes mains, pour manifester ma splendeur. Le plus petit d'entre eux deviendra un millier, le plus insignifiant, une nation puissante. C'est moi, moi l'Éternel, qui hâterai en leur temps ces événements. Et j'aimerais maintenant demander à Janine de bien vouloir lire deux passages dans Apocalypse 21. Alors, Janine,
Oui. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes, et à ces 12 portes, 12 anges. des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 kilomètres. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres, selon la mesure humaine qu'empruntait l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau.
Merci beaucoup, Janine. Donc, elle a lu dans Apocalypse 21, les versets 10 à 18 et ensuite 22 à 27. Et c'est parti. On ne voulait pas lire l'entier de ces deux chapitres, mais je trouvais important de les lire parce que vous voyez comme ils se répondent. Et vous voyez aussi que le thème d'aujourd'hui est évidemment quelque part comment se préparer à notre patrie éternelle. Le Seigneur a promis à son peuple, à Adam, à Abraham, à Moïse, à David, de nous donner un pays. On nous décrit ici le pays qui nous est préparé et on est appelé à nous préparer à y entrer. Nous sommes des voyageurs sur cette terre, on est appelé à se préparer à notre vraie patrie, un endroit absolument époustouflant quand on lit ici les descriptions. Que retenir de toutes ces longues descriptions? J'avais surtout envie de vous lire la Bible et vous donner quelques commentaires plutôt rapides. On va simplement relire quelques éléments. La première chose que j'avais envie de mettre en avant, c'est rappeler que la promesse de Dieu s'accomplit. C'est bien ce que Ésaïe et ensuite Jean vont proclamer. La promesse de Dieu, faite depuis toujours, s'accomplira très certainement. J'ai marqué ici quelques versets pour nous rappeler quel type de promesses nous sont faites. Voilà, dans la version du Semeur, « Lève-toi et resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. » C'est une belle promesse, hein ? Nous sommes appelés à rayonner de la lumière du Seigneur. Regarde autour de toi et vois, ils se rassemblent tous, ils viennent jusqu'à toi. Et puis plus loin, je t'avais frappé dans mon indignation, mais maintenant dans ma faveur, je te témoigne ma tendresse. Ésaïe fait ici référence à la sortie d'Égypte, il annonce le retour d'exil, et puis il annonce aussi surtout, quelque part, notre départ de cette espèce d'exil sur la terre pour entrer dans notre vraie patrie. Le message d'Ésaïe, je pense, est particulièrement pour nous dire « Pourquoi est-ce que tu espères si peu ?» Alors que le Seigneur a préparé des grandes choses pour nous, nous sommes un peuple de rois et de prêtres. Au temps d'Ésaïe, et dans le passage, vous l'avez entendu dans la lecture, les ténèbres couvrent encore la terre, c'est bien plus vrai au temps d'Ésaïe qu'aujourd'hui, sans doute. Il n'a pas peur de dire « N'empêche, les promesses de Dieu sont vraies et elles vont s'accomplir. » La deuxième chose qu'il annonce, Ésaïe, c'est que Dieu habitera avec son peuple. Il habite déjà un peu, mais c'est un peu. Au ciel, dans notre vraie patrie, il sera vraiment avec nous. De nouveau, deux extraits de ces passages que l'on a lus. « L'Éternel sera ta lumière à toujours. Oui, ton Dieu sera ta splendeur. Désormais, ton soleil ne se couchera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. » Dans Apocalypse, « Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. » Pour moi, c'est quelque part la plus belle promesse, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Dans le désert, le peuple d'Israël avait une colonne de fumée la journée et une colonne de feu la nuit pour le guider. Mais finalement, c'était relativement limité. Dieu se manifestait dans le tabernacle à un groupe de prêtres assez restreint et souvent il ne parlait qu'à Moïse tout seul. On nous dit qu'on habitera avec Dieu, pleinement avec Dieu. D'ailleurs, vous avez vu que qu'on décrit la Jérusalem céleste comme une ville qui est comme un cube. Sans doute parce que c'est la forme du Saint des Saints dans le temple de Jérusalem. On ne sera pas juste à l'extérieur en train de regarder le temple, on sera à l'intérieur. Pour prendre une illustration, je ne sais pas si vous connaissez le roman de Jane Austen qui s'appelle « Orgueil et préjugés ». Un roman très connu en Angleterre qui a donné lieu à plein de films. Dans ce film, on voit à un moment donné la tante de l'héroïne qui est très fière d'avoir grandi à 5 miles du château de Pemberley. Mais dans cette histoire, la nièce, elle va épouser le châtelain et habiter dans le château. Voyez la nuance. Habiter près du château, habiter dans le château ou être l'épouse du châtelain. Ici, sur cette terre, et je pense que c'était vrai pour le peuple d'Israël, on était un petit peu comme la tente, on n'habitait pas très loin, quoi. C'est déjà pas mal. Mais on sera comme l'épouse du Seigneur dans sa maison. Je trouve ça génial comme promesse, non? La présence du Seigneur est décrite comme une lumière toujours présente. Ouais. Pensez à toutes ces situations dans nos vies où on a l'impression qu'on est dans le flou, dans le noir. Que j'ai rarement l'impression d'être vraiment dans le noir, vous voyez, mais très souvent d'être dans le flou, dans des trucs un peu insaisissables, on ne sait pas par quel bout continuer, vous voyez. Nous vivrons dans la lumière. Lorsque je parle avec les uns les autres d'entre vous, les deux choses qui ressortent le plus souvent, c'est on me dit, dans cette période de Covid, on n'arrive pas à se projeter dans le futur. Tout semble brumeux et indistinct quand on regarde devant nous. Et la deuxième chose qu'on me dit, c'est on parle de la peur, de la dépression, de l'anxiété, de la perte du sens de la réalité. Vous voyez, on part dans des trucs un peu bizarres, quoi. Ouais. Ce sont les deux choses qu'on me dit quand je vous visite. Vous voyez cette promesse du Seigneur, nous serons vraiment dans la lumière. Notre vie sera dans la lumière. Je trouve que c'est une très belle promesse. Un autre élément dans ce passage, c'est nous rappeler qu'une place nous est préparée. C'est une promesse aussi de Jésus, hein, dans Jean 14, où il dit « Je vous préparerai une place ». C'est exactement ce qu'Ésaïe dit ici, et Jean aussi. Dieu nous prépare une place pour chacun de nous, pour les grands et les petits. Et vous avez vu les descriptions, les appartements, c'est plutôt luxueux. Il y a des pierres précieuses partout, Ouais. Je ne sais pas si vous aimez la musique rap, ils sont souvent un petit peu bling-bling, mais c'est un petit peu ridicule, quoi, le bling-bling de nos rappeurs, par rapport à ce que Dieu nous prépare. Je vous ai mis les superficies juste pour nous rappeler qu'il y a vraiment une place pour nous. Ouais. Voyez la surface de la Jérusalem céleste par rapport à la ville de Chartres. Ouais, ça fait un peu rêver. Il y aura des grands apparts, hein. Ouais. En plus, on nous dit que la Jérusalem céleste sera 2200 mètres de haut. Alors, on ne sait pas trop comment il faut les comprendre, hein, mais il y aura vraiment de la place pour nous. S'il est sûr que ces chiffres sont plutôt symboliques, hein, en grec, c'est 12 000 stades, 144 coudées pour la muraille, c'est certain qu'il y a une place pour nous. Vous savez, peut-être, chez les témoins de Jéhovah, il y a de la place seulement pour 144 000 personnes. Les autres, ils restent sur Terre, ils ont des petits pavillons, mais ils n'ont pas de place pour eux. Vous savez peut-être que dans le christianisme du Moyen-Âge, on a dit à peu près la même chose. Regardez l'architecture de la cathédrale, on l'a un petit peu transformée depuis, mais à l'époque, à la place de la grande porte d'entrée, il y avait une grille. Les non-baptisés restaient dehors, ils pouvaient écouter, mais dehors. Les baptisés pouvaient entrer, ensuite il y avait une nouvelle grille, et ensuite seulement le clergé pouvait aller au-delà de la grille, et tout au fond, il y avait l'autel qui symbolisait la présence de Dieu. Vous voyez, on nous montrait bien que il n'y a qu'un tout petit nombre qui peut être près de Dieu. Depuis, dans la cathédrale, ils ont fait des travaux, ils ont déplacé l'autel, bon, tout ça. Bon. Mais non, ce n'est pas ce que dit la Bible. Dans la Bible, il y aura une place pour tous. Tous, nous pourrons être dans la présence de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye un petit peu de vivre aussi dans nos églises, par le fait que chacun de nous, on peut prier. La prière, c'est la chose la plus importante qu'on fait dans un culte. Et chacun de nous peut prier. C'est une manière de dire, on est tous dedans, quoi. Oui. Je sais bien que certains d'entre nous ont de la peine à visualiser qu'ils ont une place dans un palais glorieux. D'autres, c'est l'inverse. Ils pensent qu'eux, ils y ont droit, mais les autres, c'est quand même un peu... Voilà. Nous avons une place pour chacun de nous dans le palais glorieux du Seigneur. Dans ce texte, on nous précise aussi qu'il y a aussi une place pour les bergers arabes et puis pour les rois des autres peuples. Il y a toute une série de noms, hein, qui sont présentés dans le livre d'Ésaïe. C'est beaucoup de peuples qui habitaient dans ce qu'est maintenant peut-être l'Arabie Saoudite. Ceci dit, je trouve important de se rappeler cette promesse. Nous sommes dans une période où nous sommes appelés à prier pour le monde musulman pendant le Ramadan et de se rappeler qu'un jour, des membres de ces peuples feront partie avec nous du peuple de Dieu. Un autre point qui nous est rappelé dans ce grand texte d'Ésaïe 60, vous voyez que je vais un peu vite, c'est une promesse de grande bénédiction. Et il y a plusieurs formes de bénédiction, sortes de bénédiction, qui nous sont mentionnées ici. L'élément le plus visible, c'est la bénédiction matérielle, les richesses matérielles. Mais il y a bien d'autres bénédictions aussi. Je crois que si la Bible mentionne souvent les bénédictions matérielles, c'est parce que c'est là qu'on voit le plus la profusion, la démesure de la promesse de Dieu. Lorsque Élisée multiplie l'huile, il y a de l'huile dans toute la maison. Lorsque Jésus multiplie du pain, il y a des restes pour plusieurs jours. Et c'est bien ce qu'on décrit ici. Lorsque le Seigneur bénit, il n'est pas avare, quoi. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, on décrit une ville qui a les portes ouvertes tout le temps parce qu'il y a tout le temps des bénédictions qui arrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les portes jour et nuit seront toujours ouvertes. On ne les fermera jamais pour laisser affluer les trésors des nations. Ésaïe fait référence bien sûr à la sortie d'Égypte, où ils sont sortis avec des cadeaux qu'ils ont reçus des Égyptiens, mais il fait surtout référence à tous les pillages dont ils ont été victimes. Jusqu'ici, ça a plutôt été l'inverse pour le peuple d'Israël. Les gens sont venus, ont pris leur richesse et sont partis avec. Et il dit, mais non, ça sera juste l'inverse. Ésaïe écrit à des personnes qui craignent la famine, qui ont déjà perdu maintes et maintes fois leurs biens. Et il leur dit, le Seigneur va vous bénir richement. Ésaïe mentionne aussi d'autres bénédictions. Il parle de paix, il parle de justice. L'expression de justice revient très souvent dans ce passage. Et une autre bénédiction que je trouvais importante pour la période que l'on vit, la bénédiction que les fils et les filles reviendront vers nous. Certains d'entre nous n'ont pas d'enfants, d'autres sont brouillés avec eux, d'autres sont simplement séparés de leurs enfants à cause de l'épidémie. J'aime bien cette promesse. Tes fils et tes filles reviendront vers toi. Puis, il y a un cinquième élément. Cette promesse, quelque part, de sainteté, de devenir des hommes et des femmes justes. C'est à la fois une promesse et à la fois une sorte de mise en garde. Rien d'impur ne pourra y pénétrer, dit Apocalypse 21, 27. J'établirai sur toi la paix comme inspecteur, la justice comme dominateur, et l'on n'entendra plus parler de violence dans tes frontières. On appellera tes murailles salut et tes portes louanges. Ésaïe 78. Ou encore, ton peuple sera tout entier composé d'hommes justes et ils posséderont le pays pour toujours. Ésaïe 60, 21. Voyez cette promesse. Un peuple de personnes justes. On sait bien ce que ça donne hein, quand on est avec des gens méchants. Un peuple de gens justes. Une grande promesse, la fin de la violence, puis une certaine mise en garde. Vous rappelez sans doute que si Israël part en exil, c'est parce que justement, ils ont fait le mal. Et donc, ils perdent le pays qui leur a été donné. On a quand même ici une certaine mise en garde. Avec cet appel, comment est-ce que je m'entraîne à être juste? Pour l'éternité, je serai dans un peuple juste. Comment je m'entraîne? Je m'entraîne à être bien là-bas. On l'a rappelé dans le temps de Sainte-Cène, avant tout le prix payé par Jésus pour notre pardon. Je trouve se rappeler le prix payé par Jésus, c'est une grande motivation. Aussi avec la Sainte-Cène, l'appel finalement à confesser nos péchés, à dire nos péchés à Dieu. Mais il y a sans doute encore plus. Comment est-ce que je m'entraîne à ma destination future, un lieu où seuls les justes entreront? On a besoin de la transformation de nos cœurs par le Seigneur. On a besoin aussi de mettre la main à la pâte pour être prêt, disponible, pour ne pas être dépaysé quand on sera dans le pays du Seigneur. Je vous ai remis à la fin le rappel de la promesse de Dieu. Voyez comment Ésaïe l'a présenté ici. Vous serez mon peuple, un peuple saint, un peuple de prêtres. Je serai votre Dieu. J'habiterai parmi vous, je vous donnerai un pays et je pardonnerai votre péché. C'est beaucoup de promesses. Je vais vous inviter encore à prier. C'est vrai, Seigneur Jésus, que trop souvent, on se contente d'espérer trop petit. De vouloir juste un petit peu de calme, un peu de paix, un peu plus de confort, et tu nous appelles à bien plus que ça. Seigneur, aide-nous à espérer, à nous attendre vraiment à toi. Merci pour tout ce que tu prépares pour nous. Il y a vraiment une place pour nous. Je ne sais pas encore tous les détails à quoi ça va ressembler, mais on sait qu'il y a vraiment une place pour chacun de nous. Nous pourrions vivre tous ensemble avec des frères et sœurs de toutes les nations. Seigneur, aide-nous à nous, à apprendre dès aujourd'hui, à vivre ensemble avec nos frères et sœurs, de toute nation, de tout âge, de tout caractère. On va vivre ensemble pour l'éternité et ça sera un vrai temps de joie. Amen.